Donc voilà, je m'appelle Yvan Beck. Alors, je vais me présenter très brièvement parce que l'intervention que je vais faire, c'est dans un cadre de réflexion. Donc, ce n'est finalement que le reflet de ce que je suis et de la façon dont moi j'ai été formaté dans une société bien particulière. Donc, je suis de formation, je suis vétérinaire, ostéopathe, j'ai fait une licence en environnement. Je suis président d'une association depuis 35 ans qui s'appelle Planète Vie. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Et mon intervention aujourd'hui, c'est à la suite de notre dernier film, Écocide, changer ou disparaître. Et c'est une intervention qui devrait plutôt se tourner vers le fait que nos sociétés ne pourront avancer évidemment que par un changement collectif, mais que ce changement collectif ne pourra jamais se faire qu'à partir du moment où il y a un travail individuel. Travail individuel que nous essayons de mettre en place depuis plus de 30 ans par des livres, par des films, hein, et par des dossiers pédagogiques. On en parlera tout à l'heure. C'est le dossier qu'on a fait pour les écoles, pour Écocide. On avait fait un dossier également à l'époque pour la consommation de viande avec Love Me Tender. Alors, changer fondamentalement, ça veut dire vraiment changer de système de référence. Nous sommes nés dans un continent dans lequel nous avons une certaine vision de ce que nous sommes et de notre rapport au monde qui est loin d'être le même que dans d'autres continents. Donc, la première réflexion que je vous donnerai, ce sont des choses que l'on peut contempler longuement avant de se positionner, c'est deux visions du monde qui sont fondamentalement différentes. Ici, en Occident, en général, nous nous voyons comme des entités indépendantes, uniques. Je me vois comme, voilà, Yvan, une personne, et séparée du reste du monde. Dans d'autres cultures, les gens ne se voient pas comme uniques et séparés, mais se voient comme multiples. Nous fondons notre vision du monde sur la question que nous sommes permanents. Dans d'autres parties du monde, les gens se voient, eux et les autres phénomènes, comme impermanents. Et la dernière chose, qui était un petit peu l'intitulé de mon intervention d'aujourd'hui, dans certaines parties dans notre pays, pardon, nous nous voyons comme indépendants, alors que dans beaucoup de cultures, on se voit comme interdépendant. L'interdépendance, c'est quelque chose que l'on peut comprendre au niveau macroscopique, donc dans la vie de tous les jours, dans nos relations les uns aux autres, par le jeu de l'action et de la réaction. Mais elle a des fondements qui sont beaucoup plus, je dirais, subtils et dans lesquels on peut entrer par des méthodes qui appartiennent aux différentes cultures. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit au départ, dans mon cadre de référence, donc je me suis occupé pendant une trentaine d'années donc de Planète Vie, mais en même temps, j'ai été responsable d'un centre bouddhiste. Donc, le créneau à partir duquel je construis ma vie et ma relation à la vie, c'est évidemment par les enseignements que les maîtres m'ont donnés. Sa sainteté le Dalai Lama a l'habitude de dire que si on doit résumer les enseignements bouddhistes en une phrase, la vision bouddhiste est celle de l'interdépendance des phénomènes et son expression est la compassion. Il faut savoir qu'au niveau bouddhiste, cette interdépendance des phénomènes est liée de très près, ça veut dire à peu près la même chose que la question de la vacuité. Vacuité qui est très mal traduite au niveau européen par le vide. Hein, les Japonais traduisent la vacuité par la plénitude. Donc, s'il y a des personnes parmi vous qui aiment bien la physique quantique, le champ quantique est évidemment ce champ complètement vide, mais plein de tous les possibles, et c'est l'observateur extérieur qui détermine à ce moment-là quel sera le réel. Alors, je voudrais juste faire peut-être un tout petit exercice à ce niveau-là, de façon à vous donner peut-être un petit goût de ce que pourrait être cette expérience. Beaucoup de gens peuvent avoir des expériences d'interdépendance ou de vacuité où il y a une coupure, je veux dire, du monde et des sensations dans lesquelles il nous entraîne, simplement parce qu'on arrive à un autre niveau de conscience. Et ce niveau de conscience, effectivement, nous fait passer d'une vie de séparation et de dualité où il y a toujours une relation de l'un à l'autre, avec des relations de pouvoir et des choses comme ça. Plutôt... Ou sinon, je continue sans. Hein.
Ouais. Je pense que c'est au niveau du calme, en fait.
Ou alors, de passer plus à un monde où tout est lié et qui est un flux continu. Ça va ? Alors, on va prendre un bol tibétain. Ça va changer du rythme effréné de Brigitte avant moi. Je vais vous donner un tout petit coup de bol. À chacun de vous de trouver la situation dans laquelle vous êtes le plus à l'aise ou de fermer ou d'ouvrir les yeux, peu importe. Et simplement, essayez de visualiser les indications que je vous donnerai un petit peu les unes après les autres en essayant de vous conduire à votre propre rythme vers une certaine forme de sensation. C'est un exercice que vous pouvez refaire chez vous très régulièrement. Ça ne va pas durer très longtemps. Hein. Ok ? On démarre ? Voilà, branchez-vous doucement sur le rythme de votre respiration. Et puis, créez dans votre esprit une représentation de ce que vous êtes, où vous voyez, comme dans un miroir ou une image, un être humain avec des bras, des jambes, une tête, parfois un cerveau, parfois un cœur. Un être humain permanent, unique, une entité. Et puis maintenant, sans avoir trop peur, imaginez que quelqu'un vous coupe en morceaux, on coupe les bras, on coupe les jambes, la tête, le tronc. Cette entité unique, indépendante, on commence à réaliser qu'elle peut se morceler en différentes parties. Comme c'est un jour de joie, on prend toutes les parties, on les met dans un mixeur, on dissout tout, et on n'a plus qu'une bouillie de moi, avec encore plus de petites parties de moi. Si je continue à fractionner ce corps maintenant, je vais arriver au niveau des organes que je vais fractionner, j'arriverai au niveau cellulaire, j'arriverai en continuant à le morceler au niveau moléculaire, les atomes, le noyau, les protons, et puis si je diminue encore, j'arriverai au niveau subatomique. Et si je fractionne à ce moment-là, il n'y a plus rien. Juste un champ d'énergie. Lâchez prise de la visualisation et demeurez à ce niveau-là. Voilà, revenez. Voilà, donc c'est un petit exercice que vous pouvez refaire chez vous. Et quand on le traverse, on se rend compte qu'à la fois, nous existons et à la fois, nous n'existons pas. Nous existons puisque là, je ne peux pas dire que je ne suis pas là, je suis là. Et si je me fractionne, je ne suis plus qu'un champ d'énergie. Et je rentre à ce moment-là dans cette dimension où je ne suis plus unique, indépendant et permanent, mais où je rentre dans un système d'interrelation et d'interdépendance. Alors pourquoi c'est important ? Parce que tant qu'on se sent séparé et qu'on est dans un monde de dualité, la relation qu'on a avec le monde, en tout cas c'est ce qu'on voit actuellement, est plutôt une relation de pouvoir et de domination. À partir du moment où on commence à se sentir relié à toute chose et à tout être sur Terre, on n'est plus vraiment séparé des autres. Et ce niveau de reconnaissance, quelque part, nous entraîne à avoir un comportement qui est totalement différent à celui que l'on a à partir du moment où on vit dans un monde de dualité et de séparation. Alors, pourquoi parler de ça ? Parce que pour moi, l'étape fondamentale, quelque part, c'est de retrouver notre place dans le cycle évolutif. On a tiré l'homme de là, et à partir de là, il a tout voulu régimenter. À partir du moment où l'homme retourne dans ce chaînon évolutif, et où retrouve cette place, quelque part, où il n'est que partie et totalement liée au reste, c'est-à-dire que toutes les actions qu'il mettra en place auront un impact et un retour vers lui, mais la façon qu'il aura de réfléchir et de se comporter avec le monde sera totalement différente. Le dernier film que l'on a fait maintenant, Écocide, Changer ou disparaître, au départ, était un film qu'on voulait nommer Interdépendance. Donc, quand, je ne sais pas, certains d'entre vous l'ont-ils déjà vu ? Il est en accès libre sur YouTube, on l'a produit nous-mêmes par la fondation qu'on a créée il y a 2 ans, de façon à pouvoir le mettre directement sur la toile et qu'il soit utile à tout le monde et dans la mesure du possible. Donc c'est un film dans lequel en fait il y a un peu 3 parties, il y a beaucoup d'intervenants, un peu de tout niveau, il y a 3 parties et dans ces parties, la première partie est un constat, on ne va pas revenir dessus, on entend que ça, on a entendu beaucoup de constats de la situation dans le monde aujourd'hui. On peut peut-être juste garder, je sais pas, un chiffre en tête, mais il y en a tellement. Le rapport de Planète Vivante, il y a 2-3 ans maintenant, en 50 ans, 69% des espèces animales et végétales, depuis 50 ans, sont en forte diminution, voire même en disparition. Comme le courant dans mon micro.
Oui.
Bon, ça ne veut pas dire que nous avons déjà perdu 69% des espèces animales et végétales, hein, mais on en a déjà perdu quand même pas mal. Et au rythme où on va les choses, ce qui est clair, c'est que d'ici l'horizon 2050, nous aurons perdu à peu près 50% des espèces animales et végétales. Hein. La dernière expansion massive que l'on a eue il y a quelques millions d'années, c'était 30%. Donc c'est pour vous dire, le problème, c'est ce qu'on appelle maintenant la 6e extinction de masse, est un problème qui est au moins aussi préoccupant, sinon plus, et lié partiellement d'ailleurs à celui du changement climatique. Alors, dans ces disparitions des espèces, évidemment, une partie majoritaire est liée à ce que l'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire les activités humaines, dont celles liées au changement climatique. Le film donc établit un constat, essaie par toute une série d'intervenants de nous faire comprendre que nous ne sommes finalement ni les mêmes ni différents, mais que nous exprimons tous, chaque espèce, chaque individu, à des niveaux différents, un patrimoine génétique ou comportemental commun avec des variations qui sont en fonction des espèces et des individus. Mais chaque espèce, chaque individu en tant que tel est un individu à part entière et mérite notre respect. C'est un sujet qui est quand même relativement ardu, donc on s'était dit à un moment... on va prendre un groupe de jeunes et on a fait avec ces jeunes, on a fait des répétitions sur base d'un scénario qu'on leur a donné Et on a créé le premier procès pour le crime d'écocide. Donc, l'écocide, oui, ça vous parle? Oui, bien. On a fait donc ce premier procès pour crime d'écocide. Et à la suite de ça, on s'est dit, ben finalement, voilà, comme dans les pistes qu'on ouvrait en fin de documentaire, entre les individuels et les collectifs, dans les collectifs, il y avait évidemment les aspects juridiques, c'est-à-dire la reconnaissance d'une personnalité juridique non humaine pour le monde vivant, et la reconnaissance du crime d'écocide. On s'est dit à ce moment-là, eh bien, on va appeler le film « Écocide, changer ou disparaître ».« Changer ou disparaître » étant un clin d'œil, à l'époque du premier rapport MEDA, aussi à 50 ans, il y avait eu la réunion de l'UICN, et je me rappelle, moi j'étais étudiant en médecine à l'époque, il y avait cette map monde qui flottait dans l'océan, comme ça, avec ses bras en l'air, et déjà à l'époque, il y a 50 ans, c'était « Changer ou disparaître ». Voilà, donc ça c'est le film, donc le film est destiné aux écoles, et le dossier pédagogique, simplement je voudrais en parcourir avec vous quelques thèmes, hein. Ce sont toute une série de thèmes qui amènent à réfléchir le monde dans lequel on est et à amorcer les pistes de changement nécessaires. De très nombreux parmi ces thèmes ont déjà été évoqués au préalable ici, mais à part entière par différents intervenants. Alors, évidemment, on ne pouvait pas parler de l'anthropocène et de l'impact de l'homme sur les écosystèmes sans mettre en cause nos modèles de développement. Donc le premier thème, c'est comment concilier nos modèles économiques et nos ressources planétaires limitées. Hein. Il n'y a que les fous et les politiques pour s'imaginer encore à notre époque qu'on puisse avoir une croissance infinie dans un monde fini. Donc c'est vraiment une réflexion importante à entrer dans les écoles et en tout cas pour tous ceux qui veulent se destiner à une vocation commerciale, eh bien de réfléchir comment mettre en place un développement plutôt en décroissance qu'en croissance. Le deuxième thème, l'anthropocène est-il dû à notre nature humaine ou à notre culture? Ça rejoint un petit peu la discussion que j'ai entamée au début avec cette pratique de méditation et en vous disant les deux aspects des sociétés au niveau culturel. Voilà, la question c'est de ne pas se culpabiliser, de se dire qu'on est tous avec un certain bagage, mais que ce bagage nous renvoie une image de nous qui n'est peut-être pas ce que nous sommes réellement. Alors si on a envie d'aller voir un peu plus loin, on commence à gratter et on essaie de comprendre qui l'on est, qui est l'autre et quelle est à ce moment-là la relation qui se met en place entre l'un et l'autre. Un déséquilibre dans l'écosystème peut-il entraîner un basculement irréversible? Là, on rentre dans toutes les théories de la science modèle, les théories du chaos, la théorie du battement d'un aile de papillon, hein, et cette réflexion selon laquelle, et on est en tout cas dans ce cas de figure actuellement, où quand on prend un système complexe, on n'est plus dans la linéarité, c'est-à-dire que 1 plus 1 ne va pas faire 2. Une fois qu'on est dans l'asymptote, il y a un moment, c'est imprédictible, on ne sait pas quand, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, où tout le système peut basculer pour retrouver un autre état d'équilibre. C'est ce qu'on appelle, quand on regarde ça, vivre dans l'impermanence, parce que effectivement, nul ne sait ce qui se passera demain. À quelle famille l'humain croit-il appartenir? C'est une question assez amusante aussi. Est-ce que nous sommes des humains? Est-ce que nous sommes des terriens? Est-ce que nous sommes des... Voilà, bon, donc c'est une belle façon de se regarder et de regarder l'autre et de mettre effectivement en question le rapport que l'humain entretient avec le reste de la planète. Après notre crise d'adolescence, l'espoir de l'harmonie. Donc ça, c'était parti un petit peu dans une image qu'on pouvait se faire de comparaison entre l'évolution quelque part des impacts de nos activités sur Terre et l'évolution d'un enfant autour de sa croissance. Hein. Nous naissons totalement dépendants de nos parents. Après cette période de dépendance, eh bien, l'adolescent, il ne pense plus qu'à une chose, c'est à son indépendance et à ne plus rien écouter de ce qu'on lui raconte et à faire plein de bêtises. Là, apparemment, nos sociétés humaines sont en plein dedans. Et puis après ça, il y a la possibilité de se tourner vers un troisième volet qui est ce volet de l'interdépendance et de vivre nos vies dans cette considération de l'interdépendance. Il faut savoir, je peux peut-être me référer au livre de Gauthier Chapelle, qui est vraiment un ami très proche, hein, qui a fait ce bouquin, qui est considéré actuellement comme ce qui sera un des bouquins les plus importants au niveau de l'écologie moderne, « L'altruisme comme autre loi de la jungle ». Nous avons été éduqués et construits en nous disant que la compétition était la solution à tous nos problèmes, mais majoritairement, quel que soit le niveau auquel on se porte, que ce soit dans nos corps, au niveau intracellulaire et dans les circulations d'énergie et d'information entre les organes, ou que ce soit entre un orgasme et un autre organisme, et un autre organisme ou un écosystème, eh bien, l'ensemble de la relation se fait plutôt en coopération et en altruisme plutôt qu'en compétition. Alors, bien évidemment, on n'aurait pas pu faire le dossier pédagogique sans parler de Peter Singer et de l'évolution de notre regard sur l'autre. Donc, je ressens, donc je suis, évolution des conceptions de Descartes à aujourd'hui. Le septième thème est un thème quand même relativement important parce que c'est un thème qui est porteur d'espoir. Donc, sommes-nous libres de changer de paradigme ou asservis à notre système? Ben, je pense qu'on peut quand même faire le pari de l'homme. Hein. On estime être une espèce supérieure. En tout cas, c'est ce qu'on clame un petit peu partout. Ben, donc, si on n'est pas capable nous-mêmes de changer de paradigme et où... Quand on regarde l'évolution de l'humanité, c'est quand même arrivé un grand nombre de fois. Là, on est vraiment à un moment clé maintenant. Nous sommes finalement la seule espèce à avoir été capable de se développer comme on l'a fait, en détruisant totalement l'écosystème, en sachant très bien qu'en allant droit au mur, d'ici quelques décennies, notre espèce risque de disparaître, tout simplement. Et en même temps, en connaissant les solutions, et pourtant, on ne fait rien. Voilà. Mais pourtant, on est capable de faire les choses. Donc, cette dimension est importante aussi parce que beaucoup de jeunes actuellement, hein, avec toutes les crises d'éco-anxiété qu'on entend à gauche, à droite et tout ça, se disent qu'ils se dirigent tellement vers un monde dans lequel il n'y a pas de solution qu'ils baissent les bras ou qu'ils font encore davantage de bêtises. Le thème 8, c'est un thème beaucoup plus juridique, hein, puisque le film s'appelle Écocide, il est normal qu'on parle de l'écocide. Donc, quel statut a l'écocide en Belgique? Il faut savoir, et on peut dire cocorico, hein, que la Belgique a déjà voté à un certain niveau, au niveau législatif, la reconnaissance du crime d'écocide, et que nous serons probablement le premier pays européen à le faire entrer dans la Constitution belge. Notre société est-elle hyper connectée ou complètement déconnectée? Donc, ça peut se rattacher à beaucoup de choses. Hein. On vit dans un monde où on est tellement hyper connecté par tous ces appareils, ces GSM, ces réseaux sociaux et tout ça, qu'on se dit, voilà, finalement, le progrès, c'est ça. Et puis, mais quand on voit une famille à table avec 5 personnes en train de taper sur leur téléphone, on se demande si les gens ne sont pas plutôt un peu déconnectés les uns des autres. Et quand on étend ça dans notre relation au monde vivant et qu'en posant la question à un enfant aux États-Unis d'où vient le lait, il vous dit un tétrapack, on se dit que effectivement, si une partie de notre comportement destructeur avec l'environnement vient de quelque part, ça vient de cette déconnexion avec le monde vivant. Donc, il est important de se reconnecter quelque part. Et alors, le dernier thème, je pense qu'il a été abordé par le garçon néerlandophone avant. C'est la question de la désobéissance civile pacifique, ce qui est d'ailleurs central au thème, je pense, d'Extinction Rébellion, hein, qui a été écrit dans la constitution indienne au moment où l'Inde s'est séparée de l'Angleterre, à partir du moment où des lois ou une majorité de décisions prises par un gouvernement, ou peu importe, sont contraires à l'intérêt du plus grand nombre, il est du devoir d'un citoyen de ne pas l'accepter et de se rebeller. Voilà, ça ce sont les 10 thèmes qui sont traités dans ce dossier. Bon, ce dossier, comme le précédent, on l'a fait avec Symbiose et d'autres organisations qui travaillent avec les professeurs. Il a été distribué, il est traduit en 4 langues. Le film aussi est traduit en 4 langues. Le dossier est gratuit, comme le film est gratuit. Et c'est notre façon à nous, quelque part, de participer et d'essayer d'aider au changement, avec d'une part des actions très concrètes, qui est cette information et cette éducation qu'on essaie de mettre en place. De formuler du fond de notre cœur Il est dit dans les enseignements de Dzogchen, quelque part, quand on explique ce partage que nous avons tous d'une même base dans ce flux de conscience continue, il dit la base a trois caractéristiques. Son essence est vide, donc cette question de vacuité. Sa nature est connaissance et son expression est compassion. À partir du moment où notre nature connaissante reconnaît la réalité de ce que nous sommes derrière toutes les fabrications que nous mettons, il y a un tel déchirement qui se fait au niveau du cœur que le cœur s'ouvre vers les notions comme l'empathie et la compassion. Et notre désir est d'aider et non pas de détruire ou de tuer. Voilà, donc moi, la seule chose que je peux faire, c'est d'appeler à une société qui, effectivement, est capable d'installer ce lien et cet équilibre cœur-esprit qui permettra de libérer la seule énergie par laquelle nous parviendrons à traverser ces crises, quelle que soit la crise. Mais effectivement, il y a urgence. Voilà, je vous remercie. Et alors quelque chose, il y a des enseignants, donc j'ai pris deux ou trois dossiers pédagogiques qui sont imprimés, donc si vous descendez, et en préalable à Éduc'Écocide, le dernier bouquin qu'on avait écrit, c'était en suivant la commission parlementaire pendant 2 ans, on a beaucoup travaillé sur les dauphins et les dauphins, la captivité des dauphins, et on a écrit un bouquin qui s'appelait « Ceci n'est pas un dauphin ». Donc il y a eu une version qui a été vendue en librairie, et puis on avait fait imprimer, je crois, 3000 exemplaires pour les écoles qu'on a distribué, je crois, on en a distribué à peu près 2500, mais j'en ai encore en bas, donc si vous voulez en avoir, je vous les donnerai, ils sont gratuits à la disposition de... Et si d'autres personnes veulent en donner dans des écoles, je dois avoir une cinquantaine d'exemplaires en bas que je vous donnerai avec beaucoup de plaisir. Voilà, ok.
Bien, merci Yvan pour cette présentation profonde et plus philosophique que celle qu'on a entendue depuis le début. Voilà, on a un petit temps d'échange, si vous avez des questions, des remarques, des sentiments aussi à faire partager à l'orateur, n'hésitez pas.
Justement, le fait de demander s'il y a des enseignants dans la salle, enfin, moi ça fait réfléchir parce que je suis prof depuis plusieurs années et évidemment je pense à tout ce qui est l'écologie, à tout ce qui est les questions animales, etc. Sachant que c'est dans les écoles qu'on a justement formé les générations suivantes. Et du coup, je me demande, moi j'ai, disons, depuis quelques années, été réticent à parler de la cause animale à l'école justement parce que les écoles voient ça comme une forme de manque de neutralité et quand on devient enseignant, on doit suivre ce qu'on appelle le principe de neutralité, à savoir de ne pas prendre position sur des questions politiques ou religieuses. Et il y a certaines écoles qui voient la question animale comme une forme de religion ou politique ou que sais-je. J'ai compris qu'il fallait même pas en parler, surtout quand on n'a pas de table sur le long terme et qu'on veut rester dans une école. Et donc, est-ce que l'école devrait en fait avoir une forme d'obligation morale, éthique et sociétale de justement aborder ces questions, parce que oui, on parle beaucoup d'écologie à l'école dans le sens où chaque année, les étudiants en ont un peu marre, on leur reparle d'écologie au cours de langue, et pourtant on voit que ça semble pas s'adhérer à grand-chose vu que les choses n'avancent pas beaucoup. Et évidemment, la question de la viande est encore beaucoup trop minoritaire. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une obligation d'agir de manière beaucoup plus forte au niveau de l'enseignement, au vu justement du fait qu'on forme la génération suivante et que dans quelques décennies, il sera déjà trop tard, si ce n'est pas déjà le cas maintenant. Donc, comment est-ce que l'école devrait se positionner par rapport à ce sujet?
Voilà, il est évident que je n'ai aucune réponse à vos questions. Peut-être que Victoria pourra participer au débat. Ce que je dirais, c'est que pour moi, l'école est un ouvreur de portes. Elle donne un cadre, mais ce cadre ne doit pas être un cadre qui est totalement fermé. Donc, des dossiers comme celui-ci, qui ont été co-rédigés par des organismes qui travaillent avec les professeurs. Et dans le groupe, quand on a fait ce dossier-ci, on avait d'ailleurs 4 professeurs. Dans différents, il y avait un professeur de sciences, un professeur de philosophie, et qui ouvre toutes ces portes. Effectivement, je pense que l'initiative d'un professeur ou de plusieurs professeurs qui se posent des questions ou qui veulent avancer ou quoi, et peut-être de soumettre le dossier à la direction de l'école et de voir dans quelle mesure, effectivement, ce type de questionnement peut entrer dans le projet pédagogique, parce que tous les projets pédagogiques des écoles ne sont pas les mêmes, quoi. Mais comme vous avez vu, les thématiques sont vraiment très, très variées, hein. Donc elles peuvent toucher au sein des enseignants, voilà. Et à partir du moment où on commence à faire une petite tache d'huile sur le beau tableau qu'on préparait, ben très souvent cette tache d'huile peut s'étendre, et d'un questionnement à l'autre, ça peut avancer, hein, à différents niveaux. Mais un cadre est toujours nécessaire pour se développer, parce que sans cadre, c'est un peu difficile. Mais à partir d'un certain moment, chaque individu, s'il veut toucher quelque chose qui est au-delà, il doit quitter le cadre, il doit avoir des outils pour ça. Donc c'est important de donner ce que l'on peut donner et le mieux possible, mais c'est important aussi d'ouvrir les portes vers d'autres possibilités. Et là, effectivement, on est vraiment dans le culturel, hein, parce que je veux dire, si vous parlez aux tribus autochtones ou à des, hein, ou en Inde ou en Asie, qui a beaucoup plus une approche holistique. Moi, je le vois aussi dans l'exercice de ma profession, entre une approche purement allopathique de la maladie, ou bien une approche de la maladie dans laquelle on voit le corps comme un tout interdépendant et en relation. Je veux dire, les deux approches sont très très différentes, quoi. Et on peut utiliser les deux, parce que les deux, dans les deux moyens thérapeutiques, il y a pas de mauvaise thérapeutique. Il y a des indications pour l'un, pour l'autre ou pour les deux ensemble, quoi. C'est devenir un être humain complet. Je pense que réintégrer notre part dans l'évolution et recréer ce lien sans coupure, c'est devenir vraiment un être plus complet que ce que l'on est, parce que pour l'instant, nous sommes une petite personne séparée du reste, et que là, on touche quelque chose de très différent, et notre comportement change fondamentalement. On a beaucoup parlé de végétarien, de véganisme et tout ça, et moi, je dis, moi, quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, j'étais un grand sportif et un grand consommateur de viande. Et puis, quand j'ai fait mes études vétérinaires, j'ai commencé à voir ce qu'était la production animale et la production animale intensive, et c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à basculer, que j'ai commencé à travailler en associatif, quoi. J'ai arrêté de manger de la viande à ce moment-là. Mais j'ai arrêté de manger de la viande, mais malgré tout, je gardais le désir de manger de la viande. Parce que j'aimais ça, tout simplement, quoi. Quand je suis entré dans les enseignements bouddhistes, Et quand je vous parle de ça, c'est moi, hein, c'est, j'ai jamais dit que quelqu'un devait entrer dans des enseignements bouddhistes. On a suffisamment de choses autour de nous. Mais je dis, à ce moment-là, effectivement, ma relation à moi et à l'autre a changé, et c'est vraiment devenu le fait de prendre une vie. Prendre une vie à partir du moment où c'est pas utile, puisqu'il y a des alternatives, quoi. Et à ce moment-là, ça a été terminé. Je veux dire, je ne me posais plus de questions, je ne devais plus me raisonner, je ne devais plus me justifier, simplement... Pour moi, ce n'était pas nécessaire. Et pourquoi je prendrais une vie alors que je suis tellement un amoureux du vivant, quoi. Vous comprenez? Donc, c'est à chacun de nous à entrer dans une réflexion qui dépasse un petit peu son intérêt personnel et l'image qu'il s'est faite de lui-même, à s'accepter petit à petit, à créer des liens, et puis à les vivre dans leur totalité, quoi. Mais à ce moment-là, il y a plus de conflit, quoi. La chose se dissout d'elle-même, quoi. Enfin, je ne sais pas si pour vous ça a été la même chose dans vos expériences, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi, quoi. Il y a différentes étapes. J'aimais beaucoup l'intervention de Tobias à ce niveau-là. On a beaucoup travaillé avec Tobias parce qu'on avait mis en place il y a une vingtaine d'années avec lui le jeudi vigie en région Bruxelles-Capitale. Et voilà, il y a des gens qui fondamentalement peuvent changer du jour au lendemain, et puis il y en a d'autres, c'est un petit peu étape par étape, hein. Il est clair, dans Love Me Tender, il y a eu beaucoup de levées de boucliers à l'époque, parce qu'on ne condamnait pas totalement au niveau des mouvements militants, hein, je veux dire la consommation de viande, mais on partait du principe que si on peut déjà arranger 99% de la production animale qui est sur base de 99% de la souffrance, c'est-à-dire les élevages intensifs, ben, au lieu d'avoir 5% de végétariens, 90%, et puis on va avoir 95% de végétariens, et les 5%, ben, ils suivront après les invétérés, je dirais. Je dis, donc, il faut y aller par étapes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait eu Jane Goodall dans le film qui avait parlé de viande heureuse. Il est évident que parler d'abord, c'est quoi de la viande? C'est quoi de la viande? C'est un animal mort, quoi. Je dis, on peut déjà se poser cette question-là. Mais alors, en plus, associer de la viande à un état de bonheur, il faudra me justifier ce qu'est le bonheur. Mais quelque part, c'est une image qui a parlé, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à demander, effectivement, quelle était la provenance et qui ont franchi ce premier pas depuis une viande industrielle produite dans des conditions effroyables pour l'homme, pour l'environnement et pour l'animal, et une viande respectueuse, quelque part. Bon, si 95% de la population en arrive déjà à ça, les 5% après, voilà. Moi, je suis persuadé que d'ici 20 ou 30 ans, pour peu qu'il y ait encore des hommes sur Terre, on regardera nos modes de production et la consommation de viande et le fait de prendre une vie, on se demandera, était-ce possible, quoi? Tout simplement parce que l'homme évolue en conscience et que dans cette forme de conscience-là, ça devient impossible. C'est quelque chose qui sort de nos existences, quoi.
Question, remarque ? Yvan, félicitations pour votre intervention. Déjà, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Vous avez prononcé un mot qui, moi, m'est très cher et que j'ai peu entendu aujourd'hui, c'est le mot décroissance. Je voudrais vous poser cette question assez simple. Est-ce que, pour vous, la croissance verte présente un danger véritablement important d'encore faire fausse route, de nous faire perdre un temps extrêmement précieux alors qu'il nous en reste peu, et finalement de présenter un mensonge de plus par rapport aux décisions que nous devrions prendre de manière impérative et urgente. Merci.
Le miroir vers vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais non, mais je dis, quand on parle de décroissance, ça veut dire que si on est dans un environnement fini qui est capable de produire sous l'influence, finalement, la production primaire, c'est le soleil, c'est les végétaux. Bon, on est un environnement fini, donc notre croissance ne peut pas dépasser. Voilà. Alors, une croissance qui continue, qu'elle soit verte, rouge, violette ou orange, non, je pense qu'on va devoir vivre différemment. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre moins bien, mais on devra vivre différemment. Il y a évidemment... C'est quoi le problème actuellement? C'est d'une part la surconsommation dans certains pays, ça c'est clair, c'est-à-dire certains qui prennent beaucoup, mais même ceux qui ne prennent pas beaucoup, je veux dire, c'est le nombre de gens qu'on a sur Terre, quoi. Quand on voit l'évolution de la population, on est passé pratiquement depuis le début du 20e à maintenant de 1 milliard à 8 milliards de gens. Si ça continue comme ça, même en prenant très peu, voilà. Donc la question de la décroissance, c'est vraiment la question de la consommation individuelle et de la population. Et puis le reste, si on arrive à un certain seuil, que cette croissance soit excédentaire en étant verte ou qu'elle soit carbonée. De toute façon, carbonée, dans 10-15 ans, il y a plus d'énergie carbonée, donc même ceux qui ne font pas le shift maintenant, ils se trouveront avec des tracteurs sans... Hein, la question ne se posera plus, quoi. Non, je pense que la croissance verte est une illusion, et une mauvaise illusion que l'on met dans la tête des gens. Ce n'est pas parce qu'ils ont un produit qui est plus respectueux qu'au point de vue de la matière, ils pourront vivre de la même façon qu'on le fait maintenant, quoi. Mais bon, c'est mon avis, je ne suis pas économiste, hein, mais... Il y a des choses qui sont des choses, je ne sais pas, 1 plus 1, ben je remplis mon pot, je le vide. C'est des choses que tout le monde peut comprendre, il ne faut pas être un... Ouais. Qu'en pensez-vous? Même chose. Oui, mais toi. On va les libérer, hein.
Bah oui.
on voit combien de temps il reste à
parler. Qui s'endort le premier. Bien, j'ai encore une chose à dire. Hein. C'est Victoria. Hein. Donc, quand il y a eu ces élections, je ne sais pas si certains là tout à l'heure, Planète Vie, bon, malgré tout, qui est quand même pas mal implanté à Bruxelles, avait vraiment poussé le parti dire animal, ce qui fait qu'on a eu, c'est la seule région belge qui avait eu un élu représentant le monde animal. Bon. Les choses ne sont pas passées comme on aurait pu s'y attendre à nombreux niveaux, en tout cas vis-à-vis de dire animal. Et Victoria est restée toute seule là, sans aucune expérience. Et depuis qu'elle est là, elle abat un travail vraiment incroyable, avec un cœur énorme, avec une intelligence incroyable. Il faut dire qu'elle est bien supportée à côté. Donc voilà, si vous ne savez pas lors des prochaines élections pour qui voter, en tout cas qui défendra vraiment le monde animal et mettra cette petite lumière dans les différents partis, quel que soit le parti, parce que ce soit le respect du monde animal ou que ce soit l'écologie, il ne devrait pas y avoir des partis spécifiques à ce niveau-là, ça devrait vraiment être le moteur au sein de chaque parti. Mais enfin, on n'est pas encore dans ce monde-là. Et donc, si ça a de l'importance pour vous, n'hésitez pas une seconde, c'est vraiment une belle personne et elle a besoin de votre soutien. Thank you.